Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Et c'est Émilie pour Radio Diwa sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr dans les cuisines des loges du Théâtre de Die en compagnie de Tristan Dubois. On va vous parler de la représentation de Burn Baby Burn, la pièce que vous pourrez voir le vendredi 24 novembre au Théâtre de Die. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Alors justement, on va parler de la pièce, on va essayer de donner envie aux auditeurs, aux auditrices de Radio Diwa de venir la découvrir. Donc déjà, quel est le propos de cette pièce ?
C'est l'histoire de deux adolescentes, c'est la rencontre de deux adolescentes un peu livrées à elles-mêmes en fait. Il y en a une qui squatte une station-service et l'autre qui passe par là, elles ont chacune leur histoire, et puis voilà, c'est l'histoire de cette rencontre et de comment elles s'entraînent l'une l'autre, et de la naissance d'une amitié entre ces deux jeunes filles qui sont à un âge où il se passe plein de choses. En fait, elles ont une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans, et voilà.
C'est indéfini, mais c'est voilà, une période, c'est important ce moment d'adolescence dans le propos du texte.
Bah, je crois que c'est important dans la vie. Enfin, il se passe plein de choses à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir. On est dans... Et là, les deux personnages, en fait, l'autrice, Karine Lacroix, elle nous dépeint deux jeunes filles qui sont... On ne sait pas le détail de leur histoire, mais elles ont un passif qui n'est pas facile. Il y en a une qui... On imagine qu'elle a été abandonnée, elle squatte là, et l'autre, elle a un parcours... pas facile non plus, et du coup elles sont en plein moment où on construit sa vie, où, voilà.
L'action de la pièce se déroule sur une journée ?
Oui.
C'est une particularité, enfin il y a une scène, un acte, enfin pas une scène d'ailleurs, un acte, et c'est le matin jusqu'au soir.
C'est ça, ça se déroule sur la journée. En fait, il y a le personnage d'Irip qui est là, et Violette arrive, elle est en panne d'essence avec sa mobylette. On ne sait pas encore où elle va ni d'où elle vient. Et c'est l'histoire de cette rencontre qui, voilà, la journée se passe.
Le décor amène une touche particulière, c'est le décor d'une station essence.
Ça se passe dans une station service, ouais.
Ouais.
Donc à l'écriture, c'est un road movie en fait. Du coup, ça évoque la route 66 des États-Unis avec les stations-service abandonnées. Mais ça se passe en France. Ça pourrait même se passer dans le Diwa, dans un endroit périurbain, plutôt rural. Et je suis sûr que dans le Diwa, il y a des stations-service abandonnées. On peut en voir sur le bord des routes. Voilà, donc ça se passe dans ce contexte-là. Moi, j'aime bien cette image de la station-service. C'est en fait, c'est en voie d'extinction les stations-service. Il y a bientôt plus de pétrole. C'est quelque chose qui a été assez éphémère en fait dans l'histoire de l'humanité. Ça a un siècle à peine et c'est déjà en fait, on les voit déjà en train de fermer et on s'interroge sur qu'est-ce que ça va devenir. Et cet espace qui est d'un autre siècle en fait, qui est du siècle d'avant, avec ces deux jeunes filles du 21e siècle qui construisent leur devenir dans cet espace révolu, ça me plaisait bien. Enfin, ça raconte un truc, une temporalité particulière qui me plaisait bien, ouais.
Et là, on passe la journée dans la station essence, alors que finalement, dans la vraie vie, la plupart du temps, on y fait des arrêts éclairs, on passe des moments de vie très furtifs.
Ben, c'est ça, en fait, dans le temps, pour ces deux jeunes filles, c'est un temps d'interrogation où elles se construisent, où elles sont sur le... En fait, elles rêvent de partir, mais de fait, elles ne partent pas. On est à cet instant de vie où on ne sait pas où on va, voilà.
J'ai lu dans le dossier de presse une évocation de « en attendant Godot ». Donc là, on attend de partir. On saura si on part ou pas.
Ben moi, Beckett, c'est une référence que j'ai qui me porte. Pour moi, c'est un des grands dramaturges. Et c'est vrai qu'à la lecture de la pièce, cette station-service, elle m'a évoqué ça. Ces deux jeunes filles, elles sont plantées autour de cette pompe à essence, un peu comme Vladimir et Estragon sont sous cet arbre et ils attendent Godot. Ben, elles, à leur façon, elles attendent leur Godot. Enfin, elles sont... Voilà. Et en plus, il y a un troisième personnage qui arrive en fin de...
C'est la question que j'allais poser.
Du coup, c'est pas Godot, mais il y a quelque chose qui déclenche des choses après, ouais, dans la pièce, sans tout raconter. Du coup, oui, cette analogie-là, elle... Je parle de ça parce que oui, il y a une vraie analogie là-dessus. Et puis aussi, même dans l'écriture, en fait, on est dans une langue qui est... les deux jeunes filles, elles parlent dans une langue qui est très quotidienne. Elles parlent comme des ados pourraient parler aujourd'hui à la sortie du collège ou du lycée. Et on est dans une langue quotidienne. Et en fait, l'histoire, elle se passe vraiment dans les silences. Et ça, c'est quelque chose qui est propre aussi à l'écriture de Beckett. Il y a ce lien aussi... Et tout se passe dans les non-dits, en fait. Karine, elle les a écrits... Enfin, ça va vite, c'est assez drôle, c'est comme des ados, c'est plein de vie. Et puis, en fait, dès que ça s'arrête de parler, ben, on voit toutes les failles des personnages, tout ce qu'elles portent, tout ce qui est... Toutes les blessures, il y a tout qui apparaît dans le silence. Et même dans le travail, c'est quelque chose qu'on a fait... On a beaucoup travaillé sur les temps entre chaque phrase, quoi.
Le troisième personnage que tu as évoqué, c'est un garçon.
Oui.
Qui a sans doute le même âge, à peu près.
Oui, à peu près, oui.
Qu'est-ce qu'il apporte à ce duo?
Eh ben, en fait, peut-être qu'il n'arrive pas tout à fait au bon moment. Ce qu'il apporte, c'est... Très concrètement, c'est un livreur de pizza. Voilà. Voilà, déjà, il apporte une pizza. Et il arrive dans une étape où la construction de la relation entre ces deux jeunes filles, du coup, ça déséquilibre des choses. Ça, de par sa présence, il renvoie à des choses qui sont douloureuses pour une des comédiennes. Et voilà, enfin, il est un déclencheur, il est un petit détonateur dans cette histoire qui amène vers une dérive violente, mais qui en même temps aussi scelle définitivement l'amitié de ces deux jeunes filles.
Mais alors pas forcément l'amitié du trio.
Non, pas forcément.
Donc,
on va pas tout raconter non plus.
au théâtre aura lieu bientôt une projection de Thelma et Louise. Le parallèle est hyper clair là.
Ouais, parce que déjà sur la condition de ces deux jeunes filles, sur la condition des femmes, sur voilà, il y a ces deux jeunes filles qui sont en train d'écrire leur vie avec la liberté, avec voilà. Et puis il y a, comme dans Thelma et Louise, il est question de violence. Il y a une des jeunes filles qui a un flingue, quoi, et comme dans Thelma et Louise. Et puis en même temps, elle répond à une violence que des hommes lui ont fait. Du coup, il y a cette histoire-là aussi qui est là, il y a ce parallèle-là. Puis bon, c'est un duo de jeunes filles qui rêvent de partir, on est dans un univers de road movie, voilà tout ça. Oui, j'ai vu que le théâtre programmait en plus une projection de Thelma et Louise, c'est bien.
Au niveau de la mise en scène, ça semble pas banal, vous utilisez la musique en live. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots?
En fait, la pièce, elle est composée... l'originalité de l'écriture de la pièce, elle est... elle est structurée avec des parties dialoguées. Donc ce que je disais dans une parole très quotidienne du dialogue de ces deux jeunes filles, c'est des scènes qui vont assez vite, ça répond du tac au tac. Et du coup, les scènes, elles sont entrecoupées par des parties qui sont narratives et qui nous renseignent sur les personnages, qui des fois remplissent la fonction même de didascalie, nous donnent des indications même scéniques. Et du coup, il y a cette question du narrateur, je ne savais pas trop comment traiter ça. Et le road movie m'a emmené vers l'envie de mettre de la musique. Moi, j'aime bien qu'il y ait des musiciens sur scène, donc l'idée de travailler avec un musicien, en l'occurrence Pascal, j'avais envie de Pascal Tollet, qui a composé la musique et qui est sur scène pour la jouer. Et en fait, j'avais envie de lui faire porter ses parties de narration. Donc lui, il a fait un travail de mise en musique de ses textes poétiques qui entrecoupent les scènes.
Il fait une sorte de voix off qui lit les passages d'action.
Alors elle n'est pas off parce qu'il est sur scène avec
donc
son micro.
Donc c'est une voix in.
Voilà. mais oui, c'est ça. Il a cette fonction du coup de narrateur qui renseigne sur qui sont ces personnages au début, cette rencontre, qui après renseigne sur le temps qui passe, qui revient sur certains événements. En fait, c'est lui qui est venu nous raconter cette histoire.
Alors, tu n'es pas l'auteur du texte,
mais
comment a lieu cette rencontre avec l'autrice, j'ai même envie de dire.
Oui.
Et elle, comment elle va à la rencontre de ces jeunes filles, finalement? Qu'est-ce qui la pousse à écrire ce texte et à faire parler ces jeunes personnes?
Alors, c'est un texte qu'elle a écrit il y a une dizaine d'années. C'est une des premières pièces qu'elle a écrites, qui a déjà été montée plusieurs fois, qui a été créée pour la première fois à la Comédie Française à Paris par une autre mise en scène. Et elle, en fait, c'était un premier texte qu'elle voulait adresser aux jeunes. Et c'était une de ses premières écritures. Elle voulait quelque chose qui secoue un peu, quoi, et qui plaise aux jeunes. Et ça marche, hein, parce que les ados, déjà qu'on parle dans leur langue avec des mots qui n'imagine même pas dans un livre.
Et ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde,
oui,
cette langue,
oui,
on comprend tous.
Oui, oui, je crois qu'il y a pas de problème. Ça peut peut-être en surprendre quelques-uns, mais c'est, en tout cas au niveau de l'intelligibilité, oui.
D'accord.
Je dirais que c'est accessible à partir de 14 ans. Mais après, les plus jeunes, c'est peut-être qu'il y a certaines choses qui vont leur échapper, et puis c'est peut-être un peu rude, mais sinon, oui, c'est très accessible. Il n'y a pas de... Voilà. Après, pour nous, pourquoi on est allé vers ce texte? Moi, ça vient d'un contexte. Il y avait une envie. On était ancré sur un territoire. On faisait un travail de résidence sur un territoire. Il y avait un projet de travail avec des ados. Et puis, on était aussi, sur ce territoire-là, la résidence, elle était portée par un festival qui est tourné vers les écritures contemporaines, entre autres. Et du coup, pour nous, c'était l'opportunité d'imaginer une collaboration avec un auteur ou une autrice. Donc on était en quête de ça, de rencontrer quelqu'un, peut-être pour une commande d'écriture, peut-être à voir comment on pouvait développer ça. Et du coup, on était en quête de ça. Et finalement, c'est une des comédiennes, c'est Marie Bonnet, qui m'a fait découvrir ce texte, qui m'a fait découvrir cette autrice par un autre texte d'elle. Et de là, on est rentré en contact. Et de là, j'ai découvert Burn Baby Burn. Et il se trouve que, en fait, à la fois, ça répondait à notre envie de travailler avec des ados. Et puis, à la fois, en fait, ça répondait, même si le texte était déjà écrit, à ce que pourrait attendre une compagnie d'une commande d'écriture. C'est-à-dire que le texte, on avait l'impression qu'il était déjà écrit pour ces deux comédiennes avec qui je travaille depuis plusieurs créations. Et du coup, voilà, finalement, on est parti là-dedans. Le spectacle, c'est assez drôle parce que là on est au Théâtre de Die et le premier travail au plateau, on l'a fait au Théâtre de Die il y a un peu plus d'un an. Donc c'est ici qu'on a fait les premières lectures avec les comédiens, c'est ici qu'on a décidé de ce que serait le décor. Après, il s'est construit après, mais la première session de travail au plateau, elle s'est faite ici. Mais sinon, en amont de ça, de ce travail au plateau, on a fait une première, en fait, en tout, on a fait deux immersions dans des collèges. On a passé 3 semaines dans un collège sur les problématiques de la pièce, en fait, à échanger avec des ados. Voilà. Donc, en gros, mon idée, c'était d'aller voir les ados et de leur dire, mais comment vous qui êtes né après l'an 2000, comment vous voyez le monde? Qu'est-ce que voilà. Et puis en prenant appui sur ce que raconte la pièce, on a soulevé des questions, on a fait des chantiers spectacles, en fait on a essayé des choses avec eux. Karine, elle est venue, on a fait des ateliers d'écriture avec eux sur différentes thématiques. Et du coup, tout ça, ça a nourri le projet.
Et puis ça met à jour, j'imagine, parce que si la pièce, elle a quelques années maintenant, il fallait peut-être se remettre à jour des problématiques plus actuelles.
Bah, en fait, on n'a rien changé à la pièce. On a assumé certaines choses. C'est assez drôle parce que quand on est allé dans le... Par exemple, il est question d'un Walkman.
Ouais.
Et du coup, en fait... Bon, là, j'ai vu au collège de Die, ils savent ce que c'est. Mais dans le premier collège où on
est
allé,
un
Walkman, pour eux, c'était lunaire. Il y a une mobylette aussi. Une mobylette, eh ben, dans certains endroits, une mobylette, ça n'existe plus du vocabulaire, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, mais bon, ça, on l'a assumé. Une fois qu'ils ont bien compris, une fois qu'ils l'ont vu sur scène, ils ont bien compris ce que c'était. Et après, sinon, sur les questions plus fondamentales, en fait, on est revenu à... Et en fait, on n'a rien changé parce que ces questions, elles sont inhérentes à leur questionnement et à ce qu'ils traversent en ce moment. Nous, ça nous a... En fait, sur l'écriture, on n'a rien changé. À quelques répliques près, on en a coupé quelques-unes. Mais sinon, globalement, on est très fidèle à sa pièce telle qu'elle l'a écrite. Après, dans notre façon d'appréhender ce texte, cette matière, ça nous a apporté beaucoup. Juste les comédiennes, de vivre... En fait, on a fait deux immersions de 3 semaines, donc de vivre 6 semaines au contact d'ados, juste dans le comportement, dans l'énergie de jeu, dans tout ça, ça a apporté plein de choses.
Ben merci beaucoup, Tristan Dubois. On vous rappelle donc que c'est le vendredi 24 novembre pour aller voir Burn Baby Burn.
Très bien.
Accroche-toi. C'est moi qui conduis, c'est moi qui t'emmène, c'est toi que je suis. Tu trembles dans mes bras, comme la nuit. Viens goûter dans mon cœur, accroche-toi, allez. Thank you.
Pour voir la pièce Burn Baby Burn, c'est donc le vendredi 24 novembre à 20h au Théâtre de Die. N'oubliez pas de réserver au 04 26 58 80 35 ou par mail à l'adresse suivante billetterie@est-west.com. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet également, théâtre-de-die.com. Et n'oubliez pas, également autour du spectacle, nous vous proposons une nouvelle formule, la formule Petit Déjeuner Projection. C'est donc dimanche matin à partir de 9h30 au théâtre, nous vous proposons le film Thelma et Louise de Ridley Scott. Ce sera donc en entrée libre et gratuite, et idem, si vous pouvez réserver, c'est super.
Les prochaines dates au Théâtre de Die, pour vous ?
Alors, les prochaines dates, nous commençons avec la pièce Mine de rien par la Fabrique des Petites Utopies. Ce sera donc le vendredi 1er décembre à 18h au Théâtre de Die, mais également en décentralisation le 27 novembre à Lucandiwa, à la Salle des Vaucons, à 18h également. Mine de rien, c'est une pièce de théâtre d'objets pour le tout public à partir de 8 ans. C'est une pièce qui nous parle de la différence, du handicap et surtout de l'acceptation. Et donc au travers de 4 grands livres pop-up, la compagnie nous embarque dans leur univers et nous questionne sur notre rapport à l'autre.
Donc ça, c'est le vendredi 1er décembre à 18h au Théâtre de Die.
Voilà. Et ensuite, encore une date, donc c'est avec L'Enfance à l'œuvre par la Compagnie des Tréteaux de France. Donc ça, c'est en partenariat avec la Comédie de Valence dans le cadre de la Comédie itinérante, le 29 novembre à 20h. Et donc c'est Robin Renucci qui vous propose, accompagné au piano par Nicolas Stavi, de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui, dans l'enfance, forge l'aspiration et amène la création? Et comment se dessine une vocation? Et donc, par le prisme des œuvres de Marcel Proust, Romain Gary, Paul Valéry et Arthur Rimbaud, Robin Renucci va tenter de répondre à ces questions. Et donc, dans le dialogue avec le piano de Nicolas Stavi, c'est une réelle invitation pour le spectateur à explorer sa propre enfance comme mise à l'œuvre de son humanité. Voilà, donc ça, c'est L'Enfance à l'œuvre, le mercredi 29 novembre à 20h. C'est pour le tout public également, à partir de 12 ans, voilà. Et toujours le même numéro de réservation, le 04 26 58 80 35 ou par mail à l'adresse billetterie@est-west.com.
L'interview du jour.